Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Raphaël, on va donc parler des 4 matchs qui ont eu lieu depuis la semaine dernière. Il y a c'est très disparate, il y a des matchs tous les jours maintenant NFL. Mmh. Donc Raphaël, on commence par Raiders 63, Chargers 21. Alors le score, il est étonnant, hein, 63-21, on le voit pas souvent. Humiliation assez incroyable, alors on en a parlé un petit peu avant cette émission, mais ça a coûté sa place à Brandon Staley, ça semble évidemment assez logique.
Ça semble logique. De toute manière, la porte, il allait prendre la porte, que ce soit maintenant ou le fameux Black Monday. Donc, pour rappeler, c'est le lundi du lendemain de dernier match de saison où, en général, beaucoup de coachs se font virer à ce moment-là. Bon, on était certain qu'il allait prendre la porte. Donc, oui, c'est logique.
Bon, sur ce match, bah, on a vu un peu ce qu'on a vu cette saison des Chargers, c'est-à-dire qu'ils se sont fait atomiser défensivement.
Ils se sont fait atomiser, effectivement, défensivement. Il y a rien eu, tout simplement. Pourtant, face à une attaque qui est pas la plus forte en face, une attaque qui, en plus, a perdu, de mémoire, c'est au cours du deuxième quart-temps ou début de troisième, qui a perdu Josh Jacobs en plus.
Je vais retourner la question. Est-ce que c'est significatif pour les Raiders? Parce qu'ils passent de 0 points lors du match précédent contre les Vikings, ouais, à 63 là.
Je pense pas que ce soit très significatif, honnêtement. Ils sont tombés face à une équipe qui est complètement démobilisée, un groupe qui a plus vraiment envie de jouer, et donc ils ont profité de ce marasme pour marquer des points. Alors, autant je pense pas qu'ils valent 0 points comme la semaine dernière, autant ils en valent pas 63 points. La réponse est quelque part entre les deux, bien entendu, mais oui, ils bénéficient d'un contexte hyper favorable sur ce match, et une fois qu'ils ont commencé à mettre la tête sous l'eau des Chargers, d'un groupe déjà démobilisé, je veux dire, bon, bah là, il suffisait de maintenir la tête sous l'eau et c'était victoire assurée, quoi.
Je vois sur le chat, vous dites Easton Stick a des stats corrects, etc. Alors attention, il faut faire attention aux stats que vous voyez à l'écran, c'est vraiment de la stat globale. Stick, il fait méga garbage time, hein. Il marque des points, ouais, en fin de match. Ils sont à 42-0 à la mi-temps, il n'y a plus
c'est
de
ça,
match.
C'est ça.
Ils se font
oui.
complètement.
Les stats offensives des Chargers veulent pas dire grand-chose parce qu'elles sont largement gonflées. Et honnêtement, sur le match, l'écart de 40 points est même presque faible, hein, j'ai envie de dire, parce que tellement en première mi-temps, il y a absolument rien côté Los Angeles. Ils auraient pas démérité de finir à 0 points. Enfin, c'est vraiment comme tu dis, c'est le garbage time qui leur permet de revenir. Bon, voilà, je sais pas s'il faut aller plus loin sur les Chargers parce qu'il y avait plus rien, les mecs ont plus envie de jouer, l'attaque est nulle, la défense est nulle,
Je vous mets le play-by-play parce qu'il est dingo, mais punt, touchdown, fumble, touchdown, fumble, touchdown, tu sais, le début de match est quand même complètement dingue. Les Raiders sont un petit trou, genre deux punts, puis derrière, on aura touchdown, punt, touchdown, dance, touchdown.
Ouais,
c'est vraiment une dinguerie. Il y a plein de gens qui demandent des nouvelles de Raoul sur le chat, mais
il va bien, hein, il va bien, il est dépité, mais il va bien.
Voilà, globalement, vous inquiétez pas. pas. Et puis au pire, il changera encore d'équipe l'an prochain. Enfin, faut pas vous en faire pour lui. Au bout d'un moment, ça va revenir. On va passer au match d'hier, c'est-à-dire de samedi, Raphaël. Le premier, je suis en train d'essayer de me remettre dessus tranquillement. C'était celui, non, parce que là, j'allais prendre le dernier. Le premier, c'était ça. Le premier, c'était Bengals Vikings. Avec T. Higgins qui porte son équipe. Alors, T. Higgins, auteur d'un touchdown exceptionnel à la fin du match, avec vraiment cette sorte de chute en arrière, lucidité de tendre le bras pour marquer, etc. Et c'est des Bengals, qui reviennent de très très loin parce qu'ils étaient quand même menés dans ce match. Ils étaient menés 17 à 3, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
Voilà, ils étaient menés 17 à 3 à la mi-temps. Non, à la fin du troisième quart temps, pardon.
À la fin du troisième quart, ouais.
Comment ils s'en sortent, Raphaël?
Ils s'en sortent un peu miraculeusement en resserrant en défense, j'ai envie de dire, le jeu. C'est vrai qu'il y a la défense qui donne pas mal d'opportunités à l'attaque de revenir progressivement, enfin qui redonne des munitions à l'attaque. Et l'attaque se réveille complètement dans le dernier quart. En fait, on revoit un peu plus ce qu'on voyait des dernières semaines du côté de Browning, un Mixon bien utilisé. Là, c'est Higgins qui remplace totalement Jamar Chase. Donc, ils sont revenus, ils ont réussi dans le dernier quart-temps à retrouver ce qu'on voyait chez eux sur les deux dernières semaines. Donc c'est vrai que les trois premiers cartons, j'ai envie de dire, du côté des Bengals sont un peu étonnants. J'ai l'impression que cette attaque de Cincinnati, elle a mis beaucoup de temps à s'adapter au blitz proposé par Brian Flores et que Browning a longtemps joué un peu avec la peur de la pression adverse et un peu déboussolé par ça. Et il a eu besoin de temps vraiment pour s'adapter. C'est un quarterback qui vient d'un peu nulle part, donc c'est pas étonnant non plus que ce soit pas une star face au blitz. Donc voilà, je pense que il lui a fallu du temps pour lire la défense de Brian Flores. Et une fois qu'ils ont commencé à comprendre comment jouer ça, ça s'est mieux passé.
Jake Browning, donc tu le disais, il a eu du mal au début. Est-ce que au final, c'est je vois des messages sur le chat qui me font rire. Est-ce que au final, il s'en sort encore bien, mine de rien, quoi. Si tu prends la deuxième partie du match, tu peux aussi dire, ça arrive aussi à des bons quarterbacks de faire une mauvaise première mi-temps, quoi.
Oui, bien sûr, ça arrive à des premiers quarterbacks. Non, il est en train de solidifier sa place de quarterback numéro 2 dans la ligue. Et pourquoi pas même dans les années à venir tenter un coup, un camp d'entraînement pour être numéro 1 dans une équipe un peu en difficulté, machin. Enfin, voilà, il est en train d'essayer de creuser sa place comme ça parce qu'effectivement, depuis trois matchs, globalement, c'est vraiment propre ce qu'il propose. Très peu d'erreurs. Bon, là, il y en a peut-être eu plus que les deux dernières semaines, mais encore une fois, face à une défense qui lui a mené la vie dure en début de match. Donc, non, il s'adapte bien et c'est tout à son crédit pour ton power, non, ta tier list.
Oui, ma tier list.
Ouais, j'allais dire power ranking, c'est plutôt une tier list.
J'ai pas encore les noms des tiers d'ailleurs, pour être honnête. Mais oui, non, il se distingue. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait cette tier list là aujourd'hui. C'est que bah, Jake Browning contre Nick Mullens, quoi, avec deux équipes qui sont encore mathématiquement dans la course au playoff. Ce qui est assez dingue. Et Browning, c'est vrai que c'est un joueur au parcours un peu particulier parce qu'il a 28 ans. Hein, c'est pas un rookie ou un mec qui sort complètement du truc. Certains le rappellent sur le chat. Il a été coupé par les Vikings justement à la base. Donc bon, c'est une drôle d'histoire. Hommage quand même à Zach Taylor là-dessus parce que il y a du bon coaching défensif de Minnesota. Alors Nick Mullens aussi a eu du mal à rentrer dans le match.
Ouais, Nick Mullens, pour le coup, je l'ai trouvé quand même moins bon que Browning. Vraiment beaucoup de passes très très moches pour le coup. Et il se fait, on va dire que ses erreurs et ses mauvaises passes font qu'il se fait rattraper par la patrouille en fin de match. J'ai envie de dire ça comme ça. C'est dommage hein, pour Minnesota parce qu'il y a quand même un casting autour de lui pas inintéressant. Il y a un Jordan Addison encore très bon. Là, ils ont réussi à sortir de la boîte Ty Chandler pas inintéressant au sol qui pourrait vraiment devenir qui a le potentiel pour devenir le coureur numéro un de cette équipe. C'est un peu dommage pour eux effectivement d'être ralentis là, on va dire, par le jeu de leur quarterback depuis trois semaines parce que les deux dernières semaines c'était Dobbs, c'était Kata. La Mullen, c'est un peu mieux, mais bon, tu sens qu'il limite un peu cette équipe quand même, quoi.
Je suis content de voir que Alex Mattison, il a pris vraiment tout son temps pour flinguer ma fantasy, et puis après, c'est dit, allez, il est temps d'aller me reposer maintenant qu'il est éliminé. Je ne joue pas aujourd'hui.
Ouais,
mon œuvre est parachevée. J'ai plus besoin de jouer. On passe au troisième match. C'est celui entre les Colts et les Steelers. 30 à 13. Garner Minshew, encore une fois, on parle d'un remplaçant. Les Steelers sont bien démarrés. Et puis finalement, ils ont ralenti contre cette équipe d'Indianapolis. Ralenti, c'est toujours un euphémisme. Hein. On parle des Steelers. Donc, ça finit avec moins de 250 yards, même 216 yards offensivement. Ça reste la même équipe. C'est-à-dire que Victor, dans le résumé, a marqué départ canon. Bon, après, ça reste les Steelers. C'est-à-dire que ça... C'est 13 points, quoi.
Oui. Oui, c'est comme tu dis, c'est la même équipe des Steelers qu'on voit depuis un petit moment, sauf que là, c'est en train de s'effondrer vraiment parce que la défense ne suit plus le rythme. C'est qu'autant, j'ai envie de te dire que le niveau offensif de Pittsburgh ressemble à ce qu'on a vu depuis le début de la saison, et y a pas de grande surprise. Le jeu au sol est pas assez efficace, plus de portée pour un Najee Harris qui court toujours moins bien que Jalen Warren, donc ça reste bizarre. Des receveurs qui sont pas très concernés, etc. Donc
Najee
bon.
Harris aussi dans ma fantaisie, hein, la famille.
Ouais, bah là, c'est jolie jolie paire
Ah bah
de coureurs.
en termes de GM, c'est pareil, hein, je suis au pilori cette année.
Non,
Je
mais
suis avec Tom Telesco.
non, mais c'est mauvais. Pour revenir sur le match, c'est mauvais offensivement. Et le problème, c'est que comme la défense, là, depuis 3 semaines, j'ai envie de dire à peu près, n'arrive plus à suivre le rythme et à provoquer les pertes de balles suffisantes pour donner les munitions à l'attaque, etc., bah, t'as une équipe de Pittsburgh qui est tout simplement trop limitée pour la course au playoff. Alors, ils sont encore dedans, arithmétiquement, on va dire ça comme ça, mais ils le méritent pas. La dynamique est vraiment très mauvaise et ils méritent pas particulièrement d'aller en playoff.
Faut savoir que Raphaël s'est fait des amis dans la rédaction avec les fans de Pittsburgh parce que la dernière fois il a dit enfin cette équipe sera plus dans la course aux playoffs. Ils étaient tous
Hein?
outrés, mais c'est vrai que bah, c'est pas
Mais
non, mais c'est vrai que c'est pas on n'a pas envie de voir ça en playoff en fait.
non, mais oui, on n'a pas envie de voir ça, mais c'est au-delà du bon mot, tout ça, mais c'est une équipe qui, là, est pas du tout en rythme pour aller en playoff. La dynamique est mauvaise, ils en sont à 4 ou 5 défaites de suite, si je dis pas de bêtises. Ou en tout cas 4 ou 5 sur les 5 derniers matchs. Normalement, en décembre, tu commences à inverser la tendance pour être une équipe un peu chaude en playoff. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'attaque et la défense, à mon sens, est de moins en moins bonne. Donc je trouve que c'est une équipe, désolé pour leurs fans, mais qui n'a pas grand-chose à faire. Et je pense même que ne pas aller en playoff et avoir un bilan négatif, ça permettrait peut-être à Mike Tomlin comment dire, de réfléchir sur la saison, de se poser les bonnes questions et d'y mettre un peu du sien pour changer les choses, quoi.
Ouais, non mais oui, je suis assez d'accord. Sur le chat, t'as des fans des Steelers qui te supportent quand même, hein. Lucius Quietus dit supporter des Steelers et je peux confirmer qu'ils méritent aucune place en playoff. Le niveau offensif est minable. Ils sont à 4 victoires sur leurs 4 défaites, pardon, sur leurs 5 derniers matchs. Du côté des Colts, donc finalement pour cette équipe, bah, eux aussi, hein, ils sont dans la course au playoff. Je vais revenir au score. Ils sont à 8-6, donc ils sont très bien dans cette course au playoff. Est-ce qu'on peut encore appeler ça un quarterback remplaçant? Ça fera partie du débat, mais Garner Minshew, il est très solide. Alors, il y a un vrai plan de jeu offensif. Eux, ils courent, hein. 34 courses pour 28 passes, vous le voyez là. Ils courent.
Il court, non, mais effectivement, on va ressortir ce mot valise, mais Garner Minshew là ressemble vraiment à un quarterback de système, on va dire. Shane Steichen construit un système offensif et demande à Minshew d'exploiter certaines choses là-dedans, mais effectivement, c'est d'abord la course et on voit. Zach Moss, qui était leur coureur numéro 2, qui est devenu leur coureur numéro 1, s'est blessé là dans le match et on sort des gars, honnêtement, enfin, sans faire. Alors, on devrait peut-être pas dire ça nous, parce que voilà, mais très sincèrement, Tyler Goodson, je l'avais pas vraiment dans le scope. On va pas se mentir. Et il arrive, on lui donne 11 portées, il fait 69 yards. Enfin, tout le monde, dès qu'ils ont besoin d'un coureur, le coureur marche globalement. On peut dire ça comme ça. Donc, c'est que le système est performant, c'est que la ligne offensive est performante. Et même le jeu aérien, après la sortie sur le gros choc, là, c'est Michael Pittman qui sort après cet énorme carton qu'il prend. C'était déjà bien d'ailleurs, j'ai trouvé de le voir être capable de se lever et de sortir du terrain parce que franchement, il prend quand même un sacré choc. T'as une équipe offensive des Colts qui, en cours de match, perd son receveur numéro 1 et perd son coureur numéro 1 et qui arrive quand même à produire ça. Donc, oui, Gardner Minshew est bon, mais je trouve que le système autour montre ses qualités, quoi.
Non, mais c'est vraiment solide comme tu dis. C'est tout à l'honneur de Shane Steichen, mine de rien, parce qu'il arrive à adapter à son quarterback, qui est complètement différent du quarterback titulaire qu'il avait au début de la saison.
Oui, ouais, ils avaient deux profils vraiment très différents. C'est vrai que des fois, on voit que les équipes aiment bien avoir un quarterback numéro 2 qui colle plus ou moins au style. On peut penser aux Ravens, hein, qui ont un quarterback numéro 2, Huntley, qui est
C'est un clone, hein.
un
Ouais.
clone de Lamar Jackson en faisant tout un peu moins bien, mais globalement, c'est le même. Donc comme ça, tu gardes le playbook, on va dire. Là, Station, ouais, il s'est pas pris la tête avec ça. Il a plusieurs corde à son arc, et comme il base son attaque avant tout sur le jeu au sol, ça lui permet peut-être aussi cette polyvalence dans le jeu aérien, en disant que, ok, on va jouer simple à la passe, mais de toute façon, le cœur de notre attaque reste le sol avec 34 courses, et il le fait bien.
Ouais, non, clairement, C'est vraiment du solide. Bon, les Colts, en tout cas, qui sont dans la course au play-off pour la conférence AFC. On va pas vous faire tout le détail, vous l'avez sur le site, mais ils sont à 8 victoires, 6 défaites. Ils sont à égalité avec plein d'équipes. En tout cas, ils vont être au coude à coude avec plein d'équipes pour les derniers strapontins en play-off. Et c'est donc une plutôt bonne chose. En tout cas, c'est un peu plus fun que les Steelers. On va passer au troisième match de samedi, quatrième match qui nous intéresse au total. Celui-là était un peu moins serré, c'était celui entre les Lions et les Broncos, 42 à 17. Jared Goff et Jahmyr Gibbs réveillent Détroit, c'était mon titre. C'est vrai que Raphaël, ils restaient sur des matchs où ils avaient perdu énormément de ballons, où ils avaient vraiment peiné, où la défense avait aussi eu du mal. Là, ils se sont quand même bien remis en ordre de marche et ils sont aux portes des playoffs. Hein. Si Seattle perd contre les Eagles, ils sont en playoffs, les Lions.
Oui, j'ai quand même du, même si mathématiquement on va dire ils sont pas encore en playoff, j'ai quand même du mal à, avec 10 victoires là déjà, j'ai du mal à voir comment ils ratent le coche à la fin. Donc je pense effectivement qu'ils sont en playoff. C'est positif pour eux hein, de revenir en forme comme ça au meilleur moment, j'ai envie de dire mi-décembre. C'était vraiment le match qu'il fallait. Surtout que le match il est plein en attaque et en défense. En attaque il y a vraiment aucune perte de balle, ça a été très propre, jeu au sol, jeu de course. Avec encore une fois un trio, j'ai envie de dire, Amon-Ra St. Brown, Laporta, Gibbs, très, très performant. Enfin, tu as vraiment sur chaque poste un joueur de très bon niveau qui fait ce qu'il a à faire et qui aide tout simplement. Et puis Jared Goff, on a retrouvé le Jared Goff du début de saison. Propre, pas de perte de balle. Donc c'est sûr, quand cette attaque de Détroit, elle arrive à dérouler comme ça, elle est vraiment très, très performante. Et c'est une vraie difficulté pour toutes les équipes de la Ligue parce que la ligne offensive est bonne, parce qu'il y a des skill players, parce que tu as un quarterback qui ne perd pas de ballon. Donc, quand ils sont comme ça, ils peuvent poser problème à pas mal de monde.
Je suis désolé, j'avais un œil en même temps sur les nouvelles. Tyreek Hill s'est confirmé le forfait. Et Devin White, apparemment, a un problème, mais qui ne serait pas lié à une blessure. On ne sait pas ce qui se passe trop du côté des Buccaneers. Match qui concerne nos camarades Lucas et Victor, hein, d'ailleurs, qui le commentent sur Six Play aujourd'hui, le Buccaneers Panthers. Packers, pardon. Ça commence par un P et un A aussi, mais c'est pas le même niveau de jeu. Donc, en tout cas, ouais, les Lions qui sont plutôt bien repartis, Sam Laporta avec un triplé. Enfin, il se passe quand même beaucoup de bonnes choses. Et en face, tendance vraiment inverse pour... je suis allé sur le mauvais match, évidemment. Tendance vraiment inverse pour cette équipe de Denver. Alors, il y a eu de la tension, il y a eu des cris sur le banc de touche, il y a eu pas mal de choses. C'est un mauvais match. Est-ce que ça remet vraiment en cause tous les progrès?
Ça remet peut-être pas en cause tous les progrès, mais c'est vrai que c'est un mauvais match, au mauvais moment, encore une fois, en termes de timing. Et moi... Ce qui m'a un peu inquiété là quand même sur ce match, c'est que j'ai eu l'impression de voir le Russell Wilson de l'an dernier. Vraiment pas très précis dans les passes, une gestion de la poche très hasardeuse. Il partait un peu dans tous les sens, ça mettait en difficulté sa ligne offensive. Alors il a toujours été un peu comme ça, mais disons qu'à une époque, il savait le faire sans se faire avoir. Là, c'était vraiment compliqué. J'ai pas été emballé vraiment par cette prestation des Broncos qui pour le coup m'inquiète un peu offensivement. Bon, défensivement, ils ont pris la marée. Ça leur était pas arrivé depuis 5 semaines. Donc, on va dire que c'est le petit faux pas en arrière. Retour en arrière. Il y a un bon premier quart-temps où ils sont bons. Et après, derrière, c'est la cata. Mais pas très rassuré de ce match à ce moment-là de la saison par rapport au contexte, course au play-off, tout ça. Après, oui, si on regarde la saison de manière plus globale, ça reste quand même positif par rapport à l'an dernier, c'est certain.
Disons que moi, je trouve qu'ils se sont retrouvés dans la pire configuration pour eux maintenant, qui est un match qui est pas serré, quoi. C'est-à-dire qu'on a vu toutes leurs victoires, c'est en défendant solide, en étant opportuniste juste ce qu'ils font en attaque, en courant bien, etc. Et tu le disais, Wilson, il a quand même plus l'air d'être... Il n'y a pas eu des longues périodes dans sa carrière, au final, où il a été taillé pour suivre des gros matchs offensifs à la passe. J'ai pas l'impression, quoi. Il y a une grosse période Seattle où il est beaucoup porté par le jeu au sol. Il y a un peu plus flambé un petit moment, mais tu vois, je trouve qu'il revient là-dedans. C'est-à-dire que si c'est des matchs où ils peuvent pas gérer vraiment, ou en tout cas être au contact, là, je veux dire, à 21-0 à la mi-temps,
Ouais, à 21-0, je te l'accorde, on sentait que ça allait être compliqué. Il y a également en deuxième mi-temps, ils sont à 21-7 et ils ont une opportunité en goal line et ils perdent il y a une erreur bête qui fait qu'ils repassent un field goal. Plutôt que de ça qui ralentit peut-être ce qui aurait pu être une tentative de comeback, on va dire ça comme ça. Oui, je te rejoins globalement, effectivement, c'est une attaque et un Russell Wilson qui sont pas capables d'aller d'aller chercher le gros scoring. On a vu depuis le début de saison, quand ils gagnaient des matchs, c'était vraiment, comme tu l'as dit, sur des scores moyens et en limitant les erreurs. Donc oui, ils reviennent. Finalement, ils sont ce qu'ils sont, quoi. Oui.
Eh ben écoute, merci beaucoup Raphaël.
Ben, merci à toi.
Je vais devoir pas traîner parce que finalement, ça faisait beaucoup de résumés
Ah
et
ben.
j'ai plus beaucoup de temps pour mon thème.
Allez, ça marche. Bon classement.
Merci beaucoup Raphaël, à très bientôt. On se retrouve nous demain d'ailleurs pour l'enregistrement. Donc mardi matin, vous nous entendrez pour le débrief des affiches.
Tout à fait, ça marche.
Et vous nous retrouverez à nouveau parce que je voyais des gens qui parlaient d'M6 la semaine dernière. On se retrouvera à l'antenne pendant les playoffs maintenant en plus, on peut le dire. Merci beaucoup Raphaël, très bientôt.
Ciao.
Ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.